Voilà, merci pour la confiance et pour la joie que j'ai aussi d'être avec vous et maintenant de servir la parole du Seigneur et de vous servir, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu. Merci à Brice pour ce beau moment d'introduction, de recueillement et d'expression de la foi. C'est important pour nous et ça va beaucoup plus loin que ce que nos yeux peuvent voir. La prière, on n'a jamais fini d'en parler, tellement c'est un sujet central, un peu délicat, tellement important. Mieux que d'en parler, c'est de le vivre. Mais nous espérons que d'en parler nous aide à le vivre aussi, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme les tartes aux pommes, hein, on peut en parler, mais le mieux, c'est de la manger. Mais voilà, on n'en parle pas pour en parler, on en parle pour le vivre. Et maintenant, je voudrais écouter avec vous la lecture de quelques versets. D'abord, dans le psaume 119. Je vais lire le début du psaume 119. Ce beau psaume que j'appelle, je ne sais pas si je n'avais pas dit ça il y a 3 semaines déjà, l'école de Jésus, parce que j'imagine Jésus, enfant, lisant ce psaume comme une table de multiplication, si vous voulez, c'est-à-dire l'apprenant et s'appropriant chaque verset comme disant une vérité, parce qu'effectivement, 2 plus 2, ça fait 4, hein, donc c'est une vérité, ce n'est pas une fable, vous comprenez. Et chaque verset de ce psaume proclame une vérité, et donc cette vérité, on peut la dire avec la bouche, elle peut s'inscrire dans nos cœurs. Elle peut s'inscrire dans nos cœurs, et la foi du psalmiste est devenue la foi de l'enfant Jésus, et puis la foi de Jésus, notre serviteur et notre sauveur et notre Seigneur. Je lis ces premiers versets, et je les imagine dans la bouche de Jésus. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. » Et Jésus s'appliquant cela à lui-même, qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Et là, il parle à Dieu d'un coup, vous voyez, il parle à Dieu. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai pas à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Voyez, Jésus dit cela avant nous, comme nous. En apprenant les lois de ta justice, je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. La seconde lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et je commenterai ces quelques versets. Matthieu chapitre 6, les versets 9 et 10. Juste ces deux versets. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je trouve quand même vraiment intéressant d'entendre Jésus nous parler de la prière. Il existe beaucoup de livres sur la prière, la plupart sont excellents, mais à voir de Jésus, avec la concision de ses propos, n'est-ce pas? Il ne s'allonge pas, il ne brode pas. C'est bien de broder, mais enfin voilà, Jésus ne brodait pas. D'entendre Jésus nous parler de la prière, c'est magnifique, je trouve. Et dans le contexte de ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, il y a beaucoup à apprendre sur la prière. Par exemple, Jésus dit « Quand vous priez, ne priez pas comme les païens. Quand tu pries, entre dans ta chambre. » C'est un détail, vous voyez. Il dit « Quand vous priez, ne faites pas quand tu pries. » Il passe du « vous » au « tu » et nous dit que la prière est d'abord quelque chose d'une grande intimité. C'est comme quand on s'habille le matin, quoi. on est avec son conjoint éventuellement, si on en a un, et puis sinon on est tout seul. On est tout seul. Voilà. Quand vous priez, attention, 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 mais quand tu pries, voilà comment tu vas faire. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Voyez comment Jésus nous parle au cœur directement, ce n'est pas sorcier, et ça nous rappelle que la prière est d'abord dans l'intimité que Dieu attend de nous. Pas de grands discours, pas de façade, pas d'apparence pour faire semblant de ceci ou cela. Tu es tout seul devant Dieu et tu ouvres ton cœur devant Dieu. Et si tu n'as plus la force de prier, comme quelquefois les patients que je visite me disent, pendant cette période, je n'ai même plus la force de prier, tu dis à Dieu, Père Céleste, je n'ai plus la force de prier, et tu t'arrêtes. C'est une belle prière en vérité, n'est-ce pas ? Voilà. Je retiens aussi du contexte de ce passage que Jésus dit, il n'y a pas deux sortes de personnes, les personnes qui prient et les personnes qui ne prient pas. On pourrait penser cela. Il dit non, il y a les personnes qui prient bien. Donc, il dit d'abord, il y a les personnes qui ne prient pas. Enfin, il ne le dit pas, mais on le comprend. Il y a des personnes qui ne prient pas. À l'époque de Jésus, c'était très, très rare. Aujourd'hui, c'est très, très fréquent. Vous voyez, le contexte n'est pas le même. Hein. Mais après, parmi les personnes qui prient, il y a les personnes qui prient pas comme il faut. Alors, c'est un peu embêtant de dire ça, parce que qui est-on pour dire « tu pries comme il faut ?» Enfin, Jésus dit « ne priez pas comme ceux-là qui prient aussi ». Donc, les païens prient. On apprend que les païens prient. Mais il ne faut pas prier comme eux. Mais quand tu pries, tu fais comme ça et comme ça. C'est un chemin, vous voyez. Prier est un chemin à la fois large, parce qu'il y a beaucoup de manières, et étroit quand même. C'est aussi un chemin étroit. C'est un chemin de justice. C'est un chemin de rencontre. C'est un chemin où la lumière va mettre d'un côté ce qu'il faut abandonner et d'un autre côté ce qu'il faut serrer dans son cœur. C'est pas pareil, vous voyez. C'est pas n'importe comment. C'est un chemin où on apprend. Normalement, on pourrait dire à la fin de la prière, on n'est pas exactement le même qu'au début de la prière. On le voit dans les psaumes, vous voyez, le psaume 13, trois versets. Pourquoi m'oublies-tu sans cesse ? Pourquoi ai-je continuellement des chagrins dans mon cœur ? Je te bénis car tu m'as fait du bien. En trois versets, vous voyez le chemin parcouru. Et puis des fois, à la fin de la prière, on a l'impression de ne pas avoir avancé, mais ça va avancer après. Donc vous voyez, la prière nous transforme. Donc on prend un risque quand on prie. Voilà, c'est pas juste une communication, c'est pas un SMS avec le Seigneur. Quoi. Enfin, c'est pas que ça. Voilà ce qu'on peut dire. Quelques remarques maintenant sur le Notre Père dans son ensemble. Voilà, pour prolonger ce qu'on disait avec Bernard au téléphone, nous ne disons pas tout le temps le Notre Père. Moi-même, je le dis pas tout le temps. Je le dis même rarement. Je suis dans ce schéma que tu évoquais. On n'est pas des catholiques pour dire la prière n'importe comment sans y réfléchir. Bon, ça peut arriver aux protestants aussi, mais on peut aussi la dire en y réfléchissant. Quand même, c'est la prière que Jésus nous a donnée. C'est le mieux. Je pense que c'est le mieux. Enfin, voilà. Et pour vous donner un bref témoignage, je prie souvent avec les patients dans les chambres, pas tout le temps, mais souvent, et je ne dis pas Notre Père. Mais il arrive qu'un patient me dise, est-ce qu'on pourrait dire le Notre Père ? Je ne dis pas non. Ça m'arrive rarement, mais quelquefois. Chaque fois, je suis béni. Ah, vous voyez, il n'y a pas que la prière spontanée qui visite le fond de notre cœur et qui répond à l'attente de Dieu. Il n'y a pas que la prière spontanée. Il y a des prières spontanées qui sont de belles répétitions, tout le temps les mêmes. Alors, ce n'est pas forcément grave, mais le Notre Père peut nous aider aussi à explorer des espaces qu'on n'aurait pas trouvé tout seul. Et donc, je peux vous dire cela. Quand des catholiques ou même des protestants me disent « on pourrait dire Notre Père hein, », on l'a dit, c'était magnifique. Donc, vous voyez, c'est pas, ne nous privons pas de choses magnifiques. Et prier Notre Père avec Jésus ou après Jésus, c'est quand même magnifique. Hein. Et on remarque que Notre Père commence et se termine par les mêmes mots. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire, en quelque sorte. C'est magnifique, ça. Ça veut dire que la conclusion rejoint l'introduction. Voilà. Et moi, je dis, c'est la prière à laquelle Dieu peut dire Amen. Bon, je vous invite à réfléchir à ça. Hein. Quand on dit Amen à notre propre prière, ça veut dire qu'on est sincère. Quand les autres disent Amen à notre prière, ça veut dire qu'ils s'y reconnaissent, ils approuvent, ils signent en bas. C'est très important, n'est-ce pas ? Voilà. Mais si Dieu peut dire Amen à ma prière, hein, je dirais c'est le top, pour parler familièrement. Si Dieu peut dire Amen à ma prière, hein, c'est vraiment bien. Quoi. Ça veut dire que l'accord, pas simplement sur la terre, il touche aussi la sphère céleste. Encore une remarque un peu générale. Il y a six demandes dans le Notre Père. Il y a six demandes. Il n'y en a pas 25, il y en a six. Et les trois premières demandes concernent uniquement le Seigneur. Ah, ça ? Donc le psaume 13 commence en disant « Pourquoi ai-je continuellement des chagrins dans mon cœur ?» Donc on a le droit de dire « Seigneur, je ne comprends rien ce qui se passe. » Qu'est-ce que... Voilà. Mais quand même, la prière que Jésus nous donne commence par Dieu. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Ton. La prière nous tourne vers Dieu. Voilà, je trouve que c'est intéressant, vraiment, et je dirais, je suggérerais cette recommandation, faire de Dieu notre premier sujet de prière. On a plein de sujets de prière, hein, il y en a qui ont des listes, il y en a qui ont je ne sais pas quoi, mais faire de Dieu, commencer par Dieu. Messire Dieu, premier servi. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est une belle parole, je trouve. Commencer par Dieu, c'est sanctifier le nom de Dieu. On va y revenir dans un instant. Commencer par Dieu, c'est proprement sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire dans toutes les richesses, les valeurs, les préoccupations, les objectifs que nous avons, beaucoup sont importants, quelques-uns non, mais parmi eux tous, Dieu est le premier. C'est-à-dire si tout disparaissait et que Dieu reste, l'essentiel serait sauvé. Vous ne croyez pas que c'est important comme pour organiser nos vies, pour ordonner nos émotions, nos sentiments, nos pensées, voilà, honorer le nom de Dieu. Est-ce que c'est s'oublier soi-même ? En un sens, oui. Mettre Dieu en premier, c'est s'oublier soi-même. Et en un sens, ce qui est bon pour Dieu, frères et sœurs, c'est bon pour nous aussi. Et là, je vais citer, et je le ferai plusieurs fois dans mon message, des catéchismes anciens de la Réforme. Ce n'est pas interdit, hein, des catéchismes de Heidelberg. Voilà. 1565, Calvin était à peine mort. Quand même, hein. Et puis le texte de Westminster, le catéchisme de Genève, je vais citer. Je cite le catéchisme de Heidelberg qui dit, sur le Notre Père, « Les trois premières demandes du Notre Père se rapportent à notre intérêt personnel quand bien même leur but principal est la glorification du nom de Dieu. » Vous voyez ce que ça veut dire, hein ? Ces trois demandes, en fait, nous concernent même si elle concerne d'abord Dieu. C'est très beau. C'est une très grande maturité. C'est une très grande profondeur. Et le petit catéchisme de Westminster, un siècle après, écrit en Angleterre, magnifique, je vous recommande, commence avec cette question. Quel est le but principal de la vie de l'homme ? Oui, c'est pas une bande dessinée, hein, c'est vraiment... quel est le but principal de la vie de l'homme ? Donc si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous allez dire ? Réponse. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Bon, vous voyez comme les deux sont associés. Glorifier Dieu, mais ce n'est pas contre nous, et de trouver en lui son bonheur éternel. Que c'est magnifique. Presque j'ai envie de m'arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses ? J'étais trop long l'autre fois, là je serai trop court. Bon, donc je continue un peu alors. Catéchisme d'Heidelberg, magnifique. Alors, je vais reprendre, sans être long, les trois premières demandes, les trois premières demandes du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Alors, que signifie que ton nom soit sanctifié, puisque Dieu est déjà saint ? Quelqu'un peut vous poser la question, hein, en disant, qu'est-ce que tu racontes ? Je cite le catéchisme de Genève, rédigé par Calvin, dans son grand souci d'instruire tout le peuple de Dieu, pas seulement les clercs, mais aussi les paysans, les enfants, les artisans, les voyageurs. Tout le monde devait être instruit et comprendre qu'est-ce qu'on croyait, pourquoi on le croyait et quelles implications ça avait. Et si on posait des questions, il fallait pouvoir répondre. C'est pas mal quand même, hein, comme objectif, je trouve. Dans le catéchisme de Genève, Calvin nous aide à comprendre et dit ceci. Dans l'Écriture, le nom de Dieu désigne la connaissance qu'on en a, sa renommée. Donc dans renommée, il y a le mot nom. Voilà. Est-ce que ce nom est inconnu? Est-ce qu'il est méprisé? Est-ce qu'il est laissé dans la poussière? Ou est-ce qu'il est au contraire élevé comme le nom qui est au-dessus de tout nom? Voilà. Donc Calvin dit, le nom de Dieu désigne sa connaissance, sa renommée. Nous souhaitons que sa gloire soit exaltée en tout lieu et à travers toute chose. Question, oui, ces catéchismes étaient en question-réponse, hein, tout le temps. La gloire de Dieu peut-elle croître ou diminuer? Réponse. En elle-même, elle ne croît ni ne diminue en rien. Nous souhaitons néanmoins qu'elle soit célébrée parmi les hommes comme elle doit l'être. Qui n'a pas eu ce désir que toute la ville de Carpentras chante un même cantique à la gloire de Dieu? C'est peu probable que nous le verrons, mais le désir y est, n'est-ce pas? Combien nous aimerions que d'autres, hein, et combien ça serait juste? Ça serait bien pour eux, ça serait bien pour le Seigneur, ça serait juste, ça serait pas simplement bon, juste, vous voyez, juste et bon. Voilà. Et donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est attirer les regards vers lui. Alors, je me suis dit, on le faisait autrefois avec de multiples expressions qui ponctuaient le langage ordinaire de chaque jour. Mon Dieu, si Dieu le veut, grâce à Dieu, Dieu soit loué, gloire à Dieu. Celui qui disait ça, peut-être il le disait sans réfléchir, mais peut-être il le disait en y réfléchissant. Quand on me demande si je vais bien, à l'hôpital, n'importe où, hein, souvent je réponds, je vais bien grâce à Dieu. Ben, ce n'est pas très difficile de faire ça quand même. Hein. Ce n'est pas très difficile. Si le directeur de l'hôpital me dit, comment ça va, monsieur Nicolas, monsieur l'aumônier, mon père, on m'appelle n'importe comment des fois, eh bien, je peux répondre, j'avais 28 ans et des généraux qui m'appelaient mon père. Ça me faisait drôle hein, quand j'étais aumônier militaire. Bon, ce n'est pas le but. Je peux répondre, je vais bien grâce à Dieu. On ne va pas me mettre en prison pour ça, hein. Mais ça peut faire réfléchir. Pourquoi il a dit ça, celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire, grâce à Dieu? Mais peut-être le Saint-Esprit prend cette parole et pendant la nuit, le réveil à 1h du matin, lui dit, qu'est-ce que tu en penses, grâce à Dieu? L'air que tu respires, il vient d'où? À qui tu as dit merci cette journée et demain, à qui tu vas dire merci? Donc, ce n'est pas difficile et on peut le faire. Hein. Je trouve que c'est important. Bientôt, ça sera peut-être interdit. Vous savez, les valeurs des lumières, tout ça, qu'on nous rabat les oreilles en ce moment, peut-être un jour sera interdit. On aura une amende si on dit grâce à Dieu. Mais pour le moment, ce n'est pas interdit. Je vous encourage à le faire. C'est sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire que chaque chose que nous voyons est reliée à Dieu. Et la Bible dit cela. Chaque chose que nous voyons, et même que nous faisons finalement, en ce moment, mais même après, c'est relié à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut dire en bien ou en mal. Si on désobéit, c'est relié à Dieu dans le sens de la rébellion. Et si on cherche à plaire à Dieu, eh bien, c'est relié à Dieu. Et puis, quand nous mangeons, nous disons merci pour la nourriture. Pourtant, on l'a acheté au magasin, le papa a travaillé, la maman aussi d'ailleurs maintenant, pour gagner l'argent. Mais on dit quand même merci à Dieu. Cette carotte, Dieu a permis qu'elle pousse à partir d'une graine grosse comme ça. Donc, vous voyez, tout est relié à Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. C'est le début de l'évangile de Jean. Mais ça, qui le sait aujourd'hui? Qui le sait aujourd'hui? Les enfants qui croient qu'on fabrique des poissons dans des usines avec de la chapelure dessus. Qui sait que Dieu a créé les poissons avant les hommes en disant que les eaux produisent la vie en abondance? Vous voyez? Et donc, si tout relié à Dieu, c'est la vision chrétienne du monde. Moins on le fait, plus ce sera difficile de le faire. C'est déjà difficile, frères et sœurs. C'est déjà très difficile. Croyez qu'un enfant à l'école, hein, je dis ça à chaque fois maintenant, croyez que pour un enfant à l'école, c'est facile de dire grâce à Dieu ou de dire le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ça. ou de dire c'est Dieu qui a permis qu'il y ait la forêt, les oiseaux et tout le reste, et les étoiles. C'est difficile, frères et sœurs, mais ce n'est pas impossible, et donc nous pouvons le faire. Sans Dieu, ces choses n'existeraient pas. Eh bien, il faut le dire, parce que ce n'est pas dit à la télé, quoi. Voilà. C'est le contraire de ce que la Bible appelle l'impiété. L'impiété. Donc Paul nous dit, l'impiété suscite la colère de Dieu dans le ciel, parce que c'est retenir la vérité captive dans l'injustice, de la colère en Dieu contre l'impiété. L'impiété, c'est le contraire de sanctifier le nom de Dieu. C'est mépriser le nom de Dieu comme s'il n'existait pas. C'est le prendre pour peu de choses, voire pour rien du tout. Alors, j'ai relevé quelques attitudes qui s'apparentent à l'impiété. Avoir honte de se réclamer du Seigneur en public. Avoir honte, c'est-à-dire se faire du souci pour soi et dire le Seigneur, on verra plus tard, on verra après. Excusez-moi. J'ai dit qu'on se déshabillait en privé, mais je me déshabille devant tout le monde. Voilà, c'est pas enregistré au moins. Hein. Voilà. Avoir honte de se réclamer du Seigneur en public, comme Pierre, hein, comme l'apôtre Pierre, qui dit, ben non, je ne connais pas Jésus, il a eu peur. On peut avoir peur dans certains cas. Et encore une fois, aujourd'hui, il peut y avoir des circonstances où se référer à Dieu sera mal jugé, sera mal pris. Avoir peur du regard des autres. Avoir peur du regard des autres. Combien de fois nous sommes restés silencieux, il aurait fallu dire quelque chose ? Au moins un petit quelque chose. J'ai besoin de réfléchir à ce que vous me dites. Je vais en parler au Seigneur. Je vais en parler à un frère ou une sœur. Voilà, vous voyez, et combien de fois nous avons parlé alors qu'il aurait, il aurait mieux fallu se taire. Voilà. Prendre le nom du Seigneur en vain. Alors souvent on dit oui, ça veut dire mon Dieu, sans réfléchir. Mais les réformateurs disent, c'est vivre d'une manière contraire à ce que nous avons chanté. Je me suis dit, alors là, le gars... C'est-à-dire, on a chanté des vérités dans le temple ou dans sa maison et on vit sur des valeurs qui nient ce qu'on a chanté un quart d'heure après ou le lendemain. Ouf, c'est prendre le nom de Dieu en vain. On était vrai là ou là? Est-ce que les paroles que nous avons chantées nous engagent? Il faudrait, ce sont des paroles d'alliance. Vous comprenez? Le cadre dans lequel notre foi se situe, c'est une alliance. Nos paroles signent une alliance pour dire, Seigneur, ce que tu as dit, c'est vrai, j'en fais ma vérité. Cette vérité, elle devient quoi? Dans la rue, dans la voiture, dans le magasin, à l'atelier, à l'école, je sais où encore. Voilà. Ne pas être reconnaissant. Ne pas être reconnaissant, c'est vivre dans l'impiété. Ça veut dire, ces choses, c'est moi qui les ai faites, ça s'est fait tout seul, c'est le hasard, ou je ne sais pas quoi. Ne pas être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'on reçoit tous les jours. Et pour l'espérance, comme on a chanté tout à l'heure. Ou, je m'accroche, être dans une perpétuelle inquiétude. Ce qui revient au même. Parce que quand on est inquiet, on n'est pas très reconnaissant. Si je suis reconnaissant, l'inquiétude baisse. C'est sûr et certain, vous voyez ? Ce n'est pas de la haute théologie, cela. Mais franchement, voilà. Et je cite Spurgeon, le grand prédicateur baptiste, calviniste baptiste, Charles Spurgeon, « Chrétien, cesse d'offenser ton Seigneur en portant sans cesse un front soucieux. » Une claque pour Charles, qui porte souvent un front soucieux. Franchement, cesse d'offenser ton Seigneur en portant sans cesse un front soucieux. Voilà. Quatrième manière d'être dans l'impiété, ne pas reconnaître notre péché. Voilà. C'est toi qui, tu as commencé dans les couples, les enfants, etc., dans l'église. Ne pas reconnaître notre péché parce que c'est faire Dieu menteur. Embêtant, hein? Dire « Seigneur, tu es un Dieu de vérité » et après faire Dieu menteur en disant « j'ai rien fait ». Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Le catéchisme de Heidelberg, que les chrétiens hollandais apprennent dimanche après dimanche toute leur vie dans le culte du dimanche soir. Le catéchisme de Heidelberg, magnifique, avec des questions et réponses aussi, formule ainsi cette demande. « Règne sur nous par ta parole et ton esprit, de telle sorte que nous nous soumettions de plus en plus à toi. » Oh, c'est la piété, ça. Allez. « Règne sur nous par ta parole et ton esprit, de telle sorte que nous nous soumettions de plus en plus à toi. » Vous voyez, c'est une demande qui nous engage vraiment en même temps. On apprend par là que le règne de Dieu s'étend sur des personnes, règne sur nous, pas sur des lieux, des maisons, des pays, tellement que ça, mais plutôt sur des personnes. Cela nous concerne donc directement. La mention de la parole de l'esprit, par ta parole et ton esprit, c'est intéressant que les deux soient associés, bien sûr, nous montre de quel ordre est ce règne. Il s'établit dans des cœurs, de telle sorte que des fruits vont en démontrer la réalité, alors que peut-être beaucoup ne verront rien. Et nous-mêmes, quelquefois, nous ne voyons pas le fruit dans nos cœurs, mais des autres peuvent le voir. Souvent, c'est comme ça, je crois. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il fallait reconnaître notre péché. Mais si Dieu agit dans nos cœurs, il y a du fruit. Nous ne le voyons pas nous-mêmes. Alors, en un sens, tant mieux, comme ça, on n'est pas trop fiers. Mais ce serait bien de le voir aussi, ou que les autres me le disent. Et donc, disons-nous-le. Disons-nous-le. N'ayons pas peur. Quand quelqu'un me dit « Je vois du fruit dans ta vie », franchement, ça m'encourage, frères et sœurs. J'en ai un peu besoin quand même. Je le dis comme ça. J'en ai un peu besoin, ça me porte. Parce qu'il y en a qui ne le disent pas ou qui pensent le contraire. Et donc, si celui qui me le dit ne ment pas, s'il n'est pas là pour me flatter, il me fait voir des choses que je ne vois pas moi-même. Il y a du fruit dans ma vie. Eh bien, gloire à Dieu. Tant mieux, ça m'encourage à continuer. C'est vrai aussi pour chacun de nous. Quelquefois, c'est par la bouche qu'il faut le dire. Je l'ai dit tout à l'heure. Quelquefois, c'est même pas la peine de le dire par la bouche. Notre vie doit le démontrer. Vie de telle sorte qu'on t'interroge. J'avais cité cette parole un jour. Voilà. Ne parle que si on t'interroge, mais vie de telle sorte qu'on t'interroge. Saint François de Sales, magnifique. Voilà. Les fruits, quelquefois, vont parler plus que les paroles. Et Jésus le dit dans ce contexte quand il dit « Quand tu pries, ne prie pas au coin des rues, cache-toi. Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Quand tu jeûnes, parfume-toi pour que personne ne le voie. » Le contraire de la pub. Témoigner de Jésus, ce n'est pas faire de la pub, frères et sœurs, comme on ferait avec Intermarché ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est vivre, c'est le laisser vivre dans notre vie. Le catéchisme de Genève, donc Jean Calvin, dit « Comment pries-tu pour que ce règne vienne ?» Réponse « Je demande que Dieu augmente de jour en jour le nombre de ses fidèles. » Ça, c'est beau aussi, vous voyez, le désir que ça s'étende. « Qu'il les comble de ses dons, parce que sans les dons de Dieu, on ne va pas faire grand-chose. » Qu'il renouvelle ses dons sans cesse par son esprit. Calvin parle beaucoup du Saint-Esprit, vous savez. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Et qu'il nous révèle chaque jour davantage sa vérité et qu'elle éclate au grand jour pour chasser les ténèbres. Et le professeur Paul Wells, mon professeur Paul Wells, avec qui j'étais à Montauban pour un colloque le week-end dernier, dit « Par cette prière, que ton règne vienne, nous souhaitons que le règne de Dieu s'étende de façon extensive » Ça veut dire qu'il s'étende, qu'il étende ses cordages, comme on dit quelquefois, et de façon intensive, plus profonde dans mon cœur. C'est très bien dit, je trouve, hein, vraiment. Merci. Voilà, cette prière est un engagement à nous consacrer pleinement à Dieu. Nous désirons que le règne de Dieu s'étende de manière extensive, qu'il y ait de plus en plus de maisons où on cherche la volonté de Dieu, et de manière intensive, de plus en plus profond dans mon cœur et dans ma vie. Le dernier point, en quelques mots, que ta volonté soit faite, c'est vraiment la même chose que ce que nous venons de voir. Voyez, le nom de Dieu, son règne et sa volonté, c'est tout un, c'est évident. Donc on pourrait dire, Jésus, comme dans les psaumes, comme dans beaucoup d'endroits dans la Bible, dit la même vérité avec trois formulations différentes, pour les aborder de manière différente et faire en sorte qu'on n'oublie rien d'essentiel. Le nom de Dieu en premier, voilà, le nom de Dieu en premier et en dernier pour dire c'est l'alpha et l'oméga de toute chose, le nom de Dieu, voilà, son règne, qui s'étend extensivement et intensivement, et sa volonté, évidemment, c'est la même chose. Le catéchisme de Heidelberg dit, ça signifie que nous renoncions à notre propre volonté et que sans murmure, nous obéissions à la volonté de Dieu qui seule est bonne. Que j'aime ces formulations simples et profondes, vous voyez, que nous renoncions à notre propre volonté, comme Jésus a fait, hein, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il y avait bien deux volontés. Et que sans murmure, nous obéissions à la volonté de Dieu qui seule est bonne. Voilà, cela nous paraît dur, parce que c'est mourir quelquefois, mais c'est la porte pour connaître la joie de marcher avec Dieu. Quelqu'un a dit un jour, nous connaissons la joie du péché, nous connaissons la joie du péché, si nous pouvions connaître la joie de la justice de Dieu. Elle est mille fois plus grande et plus belle. Et beaucoup l'ignorent. Puissions-nous vraiment la vivre et faire envie simplement. Cette compréhension de la vie chrétienne, vous voyez, elle est tout sauf moralisante, elle est centrée sur la personne de Jésus et sur notre union avec lui. C'est Jésus qui, le premier, a dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, qui a appris l'obéissance. Et là, je voudrais terminer en disant ceci, Jésus a fait cela à ma place, mais il a fait cela en premier aussi. J'aimerais que vous reteniez cela, frères et sœurs. Il n'a pas fait seulement à ma place, parce que s'il a fait à ma place, moi je regarde et puis qu'est-ce que je fais de plus ? Il l'a fait en premier, pour que je puisse le faire avec lui, après lui et en lui. Il l'a fait en premier. Il a aimé à ma place, il a aimé en premier, pour que de son amour je puisse aimer comme lui, avec lui et en lui. Vous comprenez cela ? Jésus est mort à notre place, mais il est mort en premier, pour que dans sa mort nous trouvions, nous aussi, le chemin de justice qui a été le sien, et que nous vivions comme il a vécu, et que nous lui ressemblions, comme ça a été dit déjà au début de ce culte, très justement. Je vais prier. Nous voyons de quelle alliance tu veux nous faire vivre, Seigneur, dans quelle alliance tu nous introduis, une alliance qui nous engage entièrement, comme toi-même tu t'es engagé entièrement dans ton alliance. Tu ne l'oublies pas, ô Dieu, tu ne l'oublies pas. Nous ne voulons pas l'oublier non plus. Que jamais nous n'en sortions de ton alliance de salut. Et si nous arrivait de d'en sortir, ramène-nous-y bien vite, Dieu de grâce. Pour notre propre salut, bien sûr, mais aussi pour le témoignage et aussi pour la joie du ciel. Oui, que la joie du ciel, la joie dans le ciel, soit pour nous quelque chose qui compte, qui soit important. Dieu de grâce, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.